L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Qu'une société, rentrée en possession de toutes les richesses accumulées dans son sein, puisse largement assurer l'abondance à tous, en retour de 4 ou 5 heures par jour de travail effectif et manuel dans la production, là-dessus, l'assentiment unanime de tous ceux qui ont réfléchi à cette question nous est déjà acquis. Si chacun, dès son enfance, apprenait à connaître d'où vient le pain qu'il mange, la maison qu'il habite, le livre qu'il étudie et ainsi de suite, si chacun s'accoutumait à compléter le travail de la pensée par le travail des bras dans quelques branches de la production manuelle, la société pourrait facilement s'acquitter de cette tâche, sans même tabler sur les simplifications de la production que nous réserve un avenir plus ou moins proche. Il suffit, en effet, de penser un moment au gaspillage inouï, inimaginable de force humaine qui se fait aujourd'hui, pour concevoir ce qu'une société civilisée peut produire, avec quelle petite quantité de travail de chacun et quelles œuvres grandioses elle pourrait entreprendre qui lui sont aujourd'hui hors de question. Malheureusement, la métaphysique que l'on nomme l'économie politique ne s'est jamais occupée de ce qui devait constituer son essence, l'économie des forces. Sur la possibilité de la richesse dans une société communiste, outillée comme nous le sommes, il n'y a plus de doute. Là où les doutes surgissent, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si pareille société peut exister sans que l'homme soit soumis dans tous ses actes au contrôle de l'État. S'il n'est pas nécessaire pour arriver au bien-être que les sociétés européennes sacrifient le peu de liberté personnelle qu'elles ont reconquise durant ce siècle au prix de tant de sacrifices. Une partie des socialistes affirme qu'il est impossible d'arriver à un pareil résultat sans sacrifier sa liberté sur l'autel de l'État. L'autre, à laquelle nous appartenons, prétend au contraire que c'est seulement par l'abolition de l'État, par la conquête de la liberté entière de l'individu, par la libre entente, l'association et la fédération absolument libres, que nous pourrons arriver au communisme, à la possession commune de notre héritage social, et à la production en commun de toutes les richesses. Là est la question qui prime toutes les autres en ce moment, et que le socialisme est amené à résoudre sous peine de voir tous ses efforts compromis, tout son développement ultérieur paralysé. Analysons-la donc avec toute l'attention qu'elle mérite. Si chaque socialiste veut se reporter en amer dans ses souvenirs, il se rappellera sans doute la foule de préjugés qui se réveillèrent en lui lorsqu'il arriva la première fois à penser que l'abolition du système capitaliste, de l'appropriation privée du sol et des capitaux, devient une nécessité historique. La même chose se produit aujourd'hui chez celui qui entend dire pour la première fois que l'abolition de l'État, de ses lois, de son système entier de gérance, de gouvernementalisme et de centralisation devient aussi une nécessité historique, que l'abolition de l'un sans l'autre est matériellement impossible. Toute notre éducation, faite, remarquez-le bien, par l'Église et par l'État, dans l'intérêt des deux, se révolte contre cette conception. Est-elle cependant moins juste pour cela? Et dans l'holocauste de préjugés que nous avons déjà fait pour notre émancipation, celui de l'État doit-il survivre? Je ne vais pas faire ici la critique de l'État, tant de fois déjà faite et refaite, et je suis forcée de renvoyer à une autre conférence l'analyse du rôle historique de l'État. Quelques considérations d'ordre général nous suffiront. Et d'abord, si l'homme, depuis ses origines, a toujours vécu en société, l'État n'est qu'une des formes de la vie sociale, toute récente encore pour nos sociétés européennes. L'homme vécut des milliers d'années avant que les premiers États ne fussent constitués. Grèce et Rome existèrent des siècles durant avant d'arriver aux empires macédoniens et romains, et pour nous, Européens modernes, les États ne datent que du XVIe siècle. Ce n'est qu'alors que la défaite des communes libres fut achevée, et que parvint à se constituer cette assurance mutuelle entre autorités militaires, judiciaires, seigneuriales et capitalistes, qui a pour nom État. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un coup mortel fut porté aux idées d'indépendance locale, d'union et d'organisation libre, de fédération à tous les degrés entre des groupes souverains possédant toutes les fonctions aujourd'hui accaparées par l'État. Ce n'est qu'à cette époque que l'alliance entre l'Église et le pouvoir naissant de la royauté mit fin à cette organisation, basée sur le principe fédératif qui avait existé du IXe au XVe siècle et qui produisit en Europe la grande période des cités libres du Moyen-Âge, dont Sismondi et Augustin Thierry, malheureusement plus de nos jours, avaient si bien deviné le caractère. On connaît les moyens par lesquels cette association entre le seigneur, le prêtre, le marchand, le juge, le soldat et le roi assit sa domination. Ce fut par l'anéantissement de tous les contrats libres, des communautés de village, des guildes, des compagnonnages, des fraternités, des conjurations médiévales. Ce fut par la confiscation des terres de la commune et des richesses des guildes. Ce fut par la prohibition absolue et féroce de toutes sortes d'ententes libres entre hommes. Ce fut par le massacre, la roue, le gibet, le glaive et le feu que l'Église et l'État établirent leur domination, qu'ils arrivèrent à régner désormais sur des agglomérations incohérentes de sujets, n'ayant plus aucune union directe entre eux.